Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo.
D'abord les titres. Le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à sanctionner les Rwandais dont les troupes mènent la guerre contre la RDC et ciblent la MONUSCO. Appel lancé après la publication du rapport des experts de l'ONU. Province de la Tchopo, les administrateurs des territoires réclament leur salaire de plus de 17 mois. Ils déplorent également la non-prise en compte des entités territoriales dans les budgets congolais. Notre invité, c'est le coordonnateur humanitaire en RDC et chef intérimaire de la MONUSCO. Bruno Lemarquis dit poursuivre les plaidoyers pour améliorer les conditions de vie des déplacés des guerres d'Oicha au Nord Kivu. Bonsoir. Le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants dont les troupes opérant en RDC ciblent aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO. Ces faits, note-t-il, sont constitutifs des crimes de guerre. Dans un communiqué publié hier jeudi, le ministre de la Communication et des Médias réagit ainsi après avoir, dit-il, pris connaissance du récent rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC transmis au président du Conseil de sécurité en date du 31 mai 2024. Ces rapports écrits, les porte-parole du gouvernement présentent des preuves accablantes et indiscutables de l'agression de la RDC par les Rwandais. Les condensés de la réaction de la RDC avec vous, Alain Hirung.
Le rapport des experts des Nations Unies affirme, souligne Patrick Muyaya, que le Rwanda utilise près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des terroristes du M23, comptant aussi des enfants mineurs et des personnes recrutées notamment de force dans les localités sous occupation et dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. En outre, le ministre de la Communication et des Médias dit que le gouvernement congolais prend acte des informations faisant état des cas de rapprochement circonstanciel à des niveaux non politiques ni stratégiques, de certains agents publics avec des groupements non étatiques sous sanction des Nations Unies et qui endeuillent principalement des populations congolaises. Il se félicite de ce que les experts reconnaissent l'existence des directives et sanctions prises par les autorités congolaises pour décourager ce genre d'incident et reste engagé à exploiter ces informations en vue d'en dégager d'éventuelles responsabilités. Enfin, le gouvernement de la RDC rappelle que toutes les fois que des graves soupçons des crimes et d'autres actes illégaux ont pesé sur des agents publics impliqués dans cette crise, il s'est toujours assuré que les présumés auteurs en répondent devant des juridictions compétentes.
Pendant ce temps, sur terrain au Nord Kivu, les combats se poursuivent au troisième jour, c'est vendredi, entre les rebelles du M23 et un groupe armé local dans le groupement Bachali-Mokoto. C'est dans les territoires des Masisi. Selon plusieurs sources, ces combats se déroulent notamment sur l'axe Nyange-Bibwe, ainsi qu'autour des Bweru, près des Mweso. Bernardin Nyangi.
Ce vendredi matin, la position tenue par les groupes armés locaux a été la cible d'une attaque des rebelles du M23 dans le village Bweru, près de Mweso. Quelques heures de combat après, les rebelles auraient pris le contrôle du village. Par ailleurs, les sources sécuritaires dans le Masisi indiquent qu'après avoir été délogés des villages Nyange, Mpati et Bibwe, ouest de Bachali-Mokoto, mercredi, les combattants du groupe Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains sont revenus à la charge. À l'issue des combats signalés entre 18h et 23h hier jeudi, ils auraient repris le contrôle de Bibwe. Dans leur retraite, les rebelles du M23 sont accusés d'avoir incendié la position de l'ANCDH à Kitso et pillé le village de Bibwe. Ce vendredi, surprise par des détonations soudaines d'armes lourdes et légères, les populations de Bweru, Kivuye et Miara restent coincées dans leur milieu, empêchées de sortir de la zone, disent certaines sources à Bweru Centre. Dans un communiqué officiel rendu public hier jeudi, le porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu condamnait ces nouvelles attaques des rebelles du M23 en violation de la trêve humanitaire de 2 semaines recommandée par les États-Unis d'Amérique. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu, où un militaire des FRDC, auteur du meurtre d'une fillette et des blessés par balle au camp de déplacés de Lushagala, a également été mis à mort par la population en colère. Les faits ont eu lieu dans la soirée d'hier jeudi, dans ce site du quartier Mugunga, dans la partie ouest de la ville de Goma. Cet incident suscite beaucoup de réactions quant à la sécurité des personnes déplacées internes. Chris Mukand.
Lushagala ou Kimashini? C'est dans ce site où le drame s'est produit. Des rafales tirées par un militaire dont l'unité n'a pas été identifiée ont fait des dégâts énormes. Une fillette âgée de plus ou moins 12 ans est atteinte d'une balle et morte sur le coup. Une autre balle a terminé sa course dans l'épaule d'une dame, personne de troisième âge, et d'autres personnes ont été blessées dans la débandade créée par ce tireur. Tels sont les faits tels que relatés par des témoins indépendants, et de préciser que la colère de ce militaire en état d'ébriété a été suscitée par le refus de ses avances faites à une dame. C'est en visant celle-ci que les tirs sont allés dans tous les sens. Des incidents du genre sont de temps à autre signalés dans les milieux de déplacés, ce qui pousse la société civile à demander que soit scrupuleusement appliquée la mesure de l'autorité provinciale interdisant l'accès des hommes en armes dans les sites des déplacés. Du côté de la 34e région militaire, pas de réaction jusqu'à maintenant. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Du côté des Maïndombe, les phénomènes Mobondo refaient surface dans les territoires des Kwamout. Des violents affrontements y ont opposé mercredi l'armée et la dite milice qui a été pourchassée. Cela s'est passé à Orevoir Maluku, village situé non loin de Kinsele, précisément à la limite entre les provinces de Maïndombe et de Kinshasa. Des tirs d'armes ont retenti dès l'après-midi jusque dans la soirée, indique le député provincial élu de Kwamout, David Bisaka, qui nous livre l'information. Les points avec Irène Mbomaluzolo.
Ces affrontements interviennent après plusieurs mois d'accalmie. Les sources locales indiquent que les miliciens Mobondo ont tenté d'attaquer mercredi la base des forces armées de la République à moins d'un kilomètre du village Kinsele. Et ces vaillants soldats ont mis en déroute les assaillants, situation qui a créé la psychose totale au sein de la population qui ne sait quelle direction emprunter pour se mettre à l'abri, indique le député provincial David Bisaka, élu de Kwamout.
À Kinsele, les Mobondo avaient attaqué la position des militaires au Revoir Maluku, la rivière Douami qui sépare Kinshasa et la province du Maïndombe. Les militaires de Kinsele ont réagi activement. Ils ont repoussé les Mobondo jusqu'à leur dernière demeure, mais la population traumatisée. La psychose généralisée, il y a ceux qui plairent, il y a ceux qui veulent quitter les lieux, mais ils ne savent pas par quelle direction commencer leur voyage.
D'après les sources de la société civile locale, plusieurs villages situés le long de la RN17, précisément sur l'axe Kwamout-Massiambio et sur le long de la voie fluviale, continuent d'être occupés par ces hommes armés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le corps sans vie d'un chauffeur de taxi vient d'être découvert ce matin devant la direction du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, non loin du Centre culturel américain. C'est le troisième cas dans la commune de la Gombe en une semaine. Étienne Lissoumbou.
Comme les deux précédentes victimes, celle de ces vendredis avait également les mains et les pieds liés, mais aussi cette fois la bouche bâillonnée. Après constat de la police scientifique, le corps a rejoint les deux autres à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa. L'association des chauffeurs du Congo, ASECO, dit avoir demandé et obtenu avec d'autres associations du domaine d'être reçue demain samedi par le commissaire provincial de la police de Kinshasa pour ensemble trouver des solutions à cette insécurité qui met à mal leur profession. Ceci porte à 6 le nombre de personnes tuées depuis le jeudi dernier dans la ville province de Kinshasa. Outre ces conducteurs, un magistrat, un agent des services de sécurité et un motard ont eux été abattus par des bandits armés, respectivement Antsele, Mongafula et Ngaliema.
En province de la Tchopo, les administrateurs des territoires dénoncent les non-paiements de leurs salaires. Ils l'ont fait savoir ce jeudi au terme d'une réunion en ligne. Selon eux, ils viennent de totaliser 17 mois sans être payés et ne perçoivent ni les frais de fonctionnement ni la prime d'itinérance. Ils estiment donc inutile l'existence des entités territoriales car non prises en compte dans les budgets congolais. Verdot Yamulamba Kadita, porte-parole des administrateurs des territoires de la Tchopo, s'exprime au téléphone de Jacques Mukonkole.
Même la Bible le dit, le travail mérite salaire. Mais tous les moyens sont déjà épuisés. On ne sait plus encore quoi faire, quoi dire. Dans les médias, on a déjà parlé. Même à la RTNC, on a parlé. Mais on ne nous a jamais répondu. Bientôt, c'est 17 mois. Nous vous disons bien 17 mois. On ne nous a jamais payé ni nous doter même les moyens logistiques. Donc, même pour écrire une lettre au territoire, vous êtes déconcentrés. Vous n'avez pas ni taxes ni quoi. Il faut mendier même pour écrire une lettre. Il faut aller chercher qui peut vous donner papier. Il faut aller dans un bureau privé, les secrets d'État. Mais c'est nous qui gérons à la quotidienne. Hein, le conflit communautaire, c'est la terre. Partout, il y a problème, c'est la traité du territoire. Mais cette terre-là est impayée. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, est-ce que ne serait-il pas possible que même l'actuelle assemblée propose une loi qu'on supprime les territoires parce qu'on constate que depuis 2006, qu'on a déconcentré les territoires. Le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge le fonctionnement des territoires et le prime et les salaires des anciens des territoires.
Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga. Plus d'une semaine après les débuts de l'opération Zéro Taxi Moto au centre-ville de Lubumbashi, l'atmosphère change. La ville devient aérée et les embouteillages ont diminué. Certains louchoirs rencontrés demandent à l'autorité urbaine de s'attaquer aussi aux chauffeurs des taxis et taxibus qui sèment les désordres dans la ville. Un reportage de Jean Gandou.
À première vue, lorsqu'on est au centre-ville, notamment à la Grand Place de la Poste, le premier constat est que la circulation est fluide. Les motocyclistes qui s'y amassaient, au point d'obstruer le passage, ont disparu. Et cela à la grande satisfaction de quelques loucheurs rencontrés.
Ça, on ne peut pas se voiler la face. On a vu qu'il y a quand même une propriété par rapport à ce qui se passait ici. C'est un peu bien par rapport à la fluidité.
Depuis qu'ils ont quitté la ville, il y a quand même une bonne circulation. Il y a une aération qui se passe mieux concernant l'ordre public. Il y a quand même une évolution par rapport à leur absence.
C'est bien par rapport à la propriété, premièrement. Deuxièmement, la ville était saturée.
Les motocyclistes qui ont quitté le centre-ville se retrouvent nombreux au coin de certaines avenues, dans les limites fixées par la mairie de Lubumbashi, ce qui fait redouter le cas d'accident à certains louchois. D'où la proposition faite par ce changeur de monnaie.
L'État peut faire ces parkings-là payants. Et l'État peut bénéficier.
Si le centre-ville est débarrassé des motocyclistes, d'autres louchois demandent au maire de Lubumbashi de prendre aussi des mesures contre les chauffeurs de taxis et taxibus qui stationnent n'importe où, car les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui, en définitive, pourrait anéantir les efforts des autorités de rétablir l'ordre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au sud Kivu, l'eau de la régie des eaux coule à nouveau au robinet sur la majeure partie de la ville de Bukavu qui en était privée depuis plus de 2 semaines. La population applaudit tout en demandant à la régie des eaux de dispenser ses abonnés du paiement des factures correspondant à la durée de la panne. Jean Kassami nous en dit plus.
Le retour de l'eau dans les robinets, un grand soulagement pour la population de la ville de Bukavu. Hippocrate Maroumé, défenseur des droits des consommateurs dans la commune de Kadutu, s'en réjouit.
Pour la population, vraiment, c'est un signe de satisfaction. Nous pensons que la régie des eaux doit être conséquente maintenant, surtout en ce qui concerne le paiement des 2 semaines qu'on n'a pas pu être desservi. Nous demandons qu'on anticipe régulièrement. Tout doit être planifié au niveau de la régie des eaux.
La réparation que la régie des eaux vient d'effectuer sur ses installations va soulager sans interruption les abonnés de la ville durant 3 mois. Ignace Ilunga.
Effectivement, les travaux sont finis. Nous avions besoin de placer 2500 mètres linéaires de conduite en PHT de 400 mm de diamètre. Cela avait nécessité à peu près 1 200 000 $ que nous n'avons pas su mobiliser. Donc nous sommes passés par la petite solution et ça va nous donner une certaine accalmie de manière à ne plus avoir des pannes fréquentes.
Le problème de manque d'eau à Bukavu est dû plus à la production qu'à la distribution. La capacité installée est de 42 000 m3 face à un besoin réel de 72 m3. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Actualité internationale. Au moins 16 élèves ont été tués vendredi au Nigeria dans l'effondrement de leur école alors qu'ils passaient leurs examens, a constaté un journaliste de l'AFP qui a dénombré les corps des victimes dans des hôpitaux. Les autorités de Jos, centre du Nigeria, ont indiqué que plusieurs élèves ont été tués dans l'effondrement de l'école Sainte-Académie située dans l'état du plateau dans des salles de classe. Mais un journaliste de l'AFP a vu 5 corps à la morgue d'un hôpital et 11 dans une autre. Tous portaient des uniformes scolaires. Au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite ce jeudi 11 juillet. La prison de haute sécurité de Koutoukale, tout près de Niamey, a été le théâtre d'une mutinerie de ses détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. La prison de Koutoukale, où plus de 200 terroristes sont enfermés.
L'invité.
Notre invité est le chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC. Bruno Lemarquis a effectué jeudi une visite dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire des Beni au Nord Kivu, pour évaluer la situation des milliers de déplacés dans la zone. Il annonce que les Nations Unies vont poursuivre avec les plaidoyers pour une amélioration des conditions des déplacés en attendant leur retour dans les milieux d'origine. Bruno Lemarquis s'entretient à ce sujet avec Sadiki Aboubakar.
Bruno Le Marquis, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de visiter Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni. Cette zone qu'on considère comme déversoir des déplacés dans le Grand Nord Kivu, quelle est la situation humanitaire dans cette zone?
Alors, comme vous l'avez dit, on est en visite aujourd'hui sur la commune de Oïcha. On a eu des très bonnes discussions toute la matinée avec des déplacés pendulaires. Ils s'appellent eux-mêmes les déplacés pendulaires, puisque certaines personnes, on vient en fonction de l'insécurité et des actes des groupes armés. On a visité des projets avec les partenaires, des Nations Unies, des ONG internationales, des ONG nationales. On nous a expliqué avec la solidarité qui existe au Congo, 70% des déplacés à Oïcha vivent dans les familles d'accueil où elles sont bien reçues. Donc c'est juste la minorité d'entre elles qui vivent dans les sites de déplacés. Bien sûr, les conversations qu'on a eues avec ce matin demandent toujours la même chose. Partout au Congo, on demande toujours la même chose. Le retour de la sécurité, le retour de la paix et notamment les peuples autochtones sont vraiment coupés de leur environnement, de leur milieu, de leur forêt, de leur culture, de leur mode d'alimentation, de leur source d'alimentation, ils ne se retrouvent pas du tout dans les camps de déplacés. Ils ne se retrouvent pas.
Alors, on les estime par milliers, des familles de déplacés à Oïcha. Comment les humanitaires aident-ils la RDC à faire face à cette situation? Parce que ce n'est pas seulement Oïcha, c'est toute la région est du pays qui fait face à cette problématique des déplacements des populations à cause de l'insécurité.
Il faut même dire que c'est au-delà de l'Est, puisqu'il y a d'autres parties du pays, des crises dont on parle moins, parce qu'elles sont plus locales, mais il ne faut pas oublier la crise du Maïdombé, qui a aussi entraîné des conséquences humanitaires, à la Tchopo, etc. Il y a d'autres zones de tension. Dans l'Est de la RDC, à cause de la détérioration de la situation, notamment depuis les deux dernières années, il y a une aggravation très nette de la situation humanitaire. Quand on parle de la détérioration de la situation de sécurité, c'est bien sûr la crise du M23, les avancées du M23, qui chaque fois ont comme conséquence des déplacements de population, l'activisme des ADF dans la zone où nous sommes actuellement, avec d'horribles massacres contre les populations civiles. Hier, avant-hier, nous étions en Ituri, donc là, c'est le cycle de représailles, notamment avec l'activisme de la CODECO, etc. Où nous en sommes au jour d'aujourd'hui en termes du nombre de déplacés au Congo, c'est 7,3 millions, voire plus avec les derniers déplacements des combats il y a deux semaines autour de Kanyabayonga. Donc c'est une situation parmi les pires au monde. C'est la plus prolongée du monde.
Concrètement, quels sont les projets des humanitaires dans le but de pouvoir aider ces personnes?
Malgré toutes les contraintes, notamment de financement, ici, les sites qu'on a visités ce matin, des abris en bois, des maisons ont été construites pour les déplacer. Ce n'est pas les camps de tente. Les conditions qui sont, par rapport à d'autres sites, qui sont assez bonnes. Toute la question des distributions de nourriture, dont les gens nous ont beaucoup parlé, notamment les peuples autochtones, parce que ça ne correspond pas exactement à la nourriture dont ils ont l'habitude. On a visité des projets très intéressants. Et là, d'où je vous parle, nous sommes devant un projet d'adduction d'eau avec un forage. Parce qu'il faut faire attention à ne pas donner l'aide seulement aux déplacés dans les sites de déplacés. Parce que ça crée des tensions.
Et en matière de soins de santé primaire.
Soins de santé primaire, on a visité ce matin le projet d'une organisation internationale qui s'appelle Alima. Donc ils ont des cliniques mobiles, une clinique qui bouge chaque jour. Ils couvrent un nouveau site. Et donc ils travaillent avec le personnel de la zone de santé également qui le supporte. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans cette zone. C'est jamais assez. Et puis bien sûr, comme tout le monde dit, personne ne veut être dans cette situation. Tout le monde veut retourner cultiver ses champs, manger sa nourriture dont on a l'habitude. Donc c'est la paix et l'appel vraiment de tout le monde aux autorités nationales pour faire ce qu'il faut en termes des dialogues politiques et des actions sur le terrain pour que la paix revienne.
Pourquoi la crise humanitaire en RDC, l'une des deux ou trois pires crises dans le monde, peine-t-elle à toucher le monde? Et on parle des crises oubliées, certains médias en parlent pourtant, mais pourquoi la RDC peine-t-elle à mobiliser la communauté internationale?
D'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup qui se fait. La communauté internationale est très motivée, très impliquée, mais on parle de chiffres tellement faramineux ici en termes de besoins que c'est difficile à suivre au niveau financier. Il y a aussi la durée de cette crise qui dure depuis 30 ans. Il y a sa complexité, c'est vraiment complexe à comprendre. Ça dure depuis longtemps, il y a d'autres crises dans le monde qui sont plus exposées médiatiquement et de manière géopolitique. La crise en Ukraine, la crise à Gaza, etc. Donc ça prend beaucoup de l'attention médiatique, de l'attention politique, de l'attention en termes d'appui financier. C'est pour ça que nous, on fait tout ce qu'on peut avec le gouvernement pour constamment mettre en exergue cette crise, rappeler que c'est une crise qui ne peut pas être oubliée parce que c'est une crise terrible. Il y a des souffrances incroyables au Congo à cause de tous ces conflits, de tout le mal que font ces conflits, ces groupes armés, etc. Donc vous, les médias, vous avez aussi un grand rôle pour continuer toujours à bien expliquer la crise du Congo.
Bruno Le Marquis, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette session vespérale des nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde par Polydor Basunga, supervisée et coordonnée par Alain Rungmouchi. Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci de l'avoir suivi.